Salut à tous et bienvenue dans l'épreuve. Dans cette émission, je vais à la rencontre de sportifs afin de découvrir leur mental et leur faculté à affronter les épreuves.
Aujourd'hui sur l'épreuve, je reçois Tiffany Haut-Marchand. À 9 ans, Tiffany s'essaye au short track, l'une des disciplines du patinage de vitesse. 15 ans après, elle participe aux Jeux Olympiques à Pyeongchang, une expérience dingue qu'elle n'avait jamais envisagée quelques années auparavant. Parce que oui, elle est comme ça. Elle vit au jour le jour et si elle pratique le patinage de vitesse, ça n'est pas pour la gloire ou pour l'argent, mais pour le plaisir de patiner et d'atteindre des objectifs toujours plus grands. Mais entre ses entraînements et ses préparations, elle continue ses études et se penche aussi sur son avenir. Mais je vous laisse découvrir maintenant le parcours de Tiffany Haut-Marchand dans cet épisode. Malheureusement, j'ai eu un petit problème de micro pendant l'enregistrement, mais ça n'enlève en rien la qualité de mon échange avec Tiffany. Bonne écoute! Tiffany, merci beaucoup de m'avoir rejoint dans cet épisode de l'épreuve. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui.
Merci à toi.
Aujourd'hui, du coup, on va parler de patinage de vitesse. On va parler un peu de ta carrière, de comment t'es rentré dans le patinage de vitesse. Et je voulais en savoir un peu plus et savoir comment est-ce que t'as démarré, du coup.
Avant toute chose, il faut savoir que le short track, donc le patinage de vitesse sur courte piste, est méconnu en France. C'est vraiment une discipline très peu connue, que ce soit des médias comme des gens en général. Et donc l'histoire est assez folle, puisque je suis originaire d'un petit village du Doubs, on n'est pas plus de 100 habitants, et il se trouve que ma voisine faisait du short track à Chamonix lorsqu'elle était plus jeune. Elle a décidé d'y emmener ses enfants pour qu'ils essayent, et elle nous a proposé à ma sœur jumelle et moi de les accompagner. On a accepté. Et en fait, c'était assez fou parce qu'on n'était jamais rentré dans une patinoire. On n'avait jamais mis de patins, on n'était jamais monté sur la glace. Donc à l'âge de 9 ans, nous voilà montés pour la première fois sur la glace et on a tout de suite accroché. Sauf que, en fait, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le club où on s'est inscrit, du coup, se situe à 1 heure de chez mes parents, de route. Donc ils ont dû faire les allers-retours comme ça, 2 heures, 3 fois par semaine, pendant... des années.
Ok, bah, c'est cool.
Ouais. Ils sont sympas. Ouais, heureusement qu'ils étaient là.
Parce que non, ça a pas dû. Et du coup, ils ont fait ça pendant combien de temps? Parce que la première fois que vous avez fait ça, la première fois que vous avez fait, il s'est passé combien de temps après pour que vous commenciez réellement cette discipline?
Du coup, on a pris directement notre licence après la première fois, après la première pratique, et donc okay. Dans le club, on a pratiqué pendant 7 ans et ensuite on est parti. Mais moi, je suis toujours licenciée au club de Belfort et je serai toujours licenciée au club de Belfort.
Ok. Et ta sœur, elle, qu'est-ce que. Elle n'est pas licenciée
là ? On a intégré le Pôle France en 2010, qui se situe à Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Donc on a fait les sélections en 2010, on a été toutes les deux prises. Sauf qu'un an plus tard, ma sœur a arrêté et moi, j'ai continué. Maintenant, elle tient une pâtisserie dans le Jura avec son copain.
Ok, c'est autre chose, ça. C'est différent, une autre expérience. Ok, c'est marrant. Mais du coup, jusqu'à tes 16 ans, si je comprends bien, tu faisais des allers-retours toutes les semaines, enfin, avec tes
Exactement,
parents.
Exactement, ouais.
Qui faisaient... Et je suppose qu'il restait pour te voir, du coup.
Oui, bah oui.
Il ne faisait pas l'aller-retour.
Non, bien sûr. Du coup, ma mère restait au bord de la patinoire pendant toute la pratique. Et oui, ils ont fait ça donc, pendant 7 ans, 2 à 3 fois par semaine. Sauf la dernière année, c'était un peu différent, puisqu'on a décidé d'intégrer le lycée à Belfort pour nous rapprocher justement de la patinoire. Et du coup, ça permettait d'être à l'internat toute la semaine. Et mes parents... Enfin, ça limitait les trajets pour mes parents aussi.
D'accord. Parce qu'en fait, tu étais à l'internat là-bas et ça te permettait d'aller toute seule,
ouais,
en fait, de te rendre toute seule à la patinoire.
Exactement, oui. C'était pas du tout un lycée sport-études, mais ils nous aménageaient un peu notre emploi du temps. Mais c'était pas un lycée sport-études. Et puis, il se situait juste à côté de la patinoire. Donc.
Et qu'est-ce qui t'a plu dans cette discipline plus qu'une autre? Parce que... Enfin, comme tu dis, c'est quelque chose qui se pratique très peu. Je pense qu'en plus, tu vivais près de la montagne.
Tu vivais où avec tes parents?
Non, je vivais à la campagne.
Ok. Mais du coup, il y a genre plein d'autres activités que tu aurais pu faire et tu as choisi celle-ci. Il y a eu un coup de cœur, il y a eu une bonne ambiance dans les équipes. Qu'est-ce qui a fait que ça a pris le dessus?
Ben justement, c'est un peu tout ça. Il faut savoir que j'ai aussi deux autres frères, un petit frère et un grand frère. Et mon grand frère faisait du karaté en club, lui. Mais nous, on n'a jamais été, avec ma sœur, intéressés par un sport de combat. Pourtant, on allait le voir sur ses compétitions, mais ça ne nous disait pas trop. On faisait du sport à l'école, on faisait beaucoup de vélo dans notre village, du coup. Mais on n'avait jamais fait de sport en club avant le short track. Et c'est ça, c'est un tout. C'était le fait de découvrir un nouvel environnement. Parce que, comme je disais, on n'était jamais monté sur la glace. C'était des nouvelles sensations. Puis, il y avait une super bonne ambiance dans le club. Il y avait énormément de monde, des nouveaux copains-copines. Puis, c'est ça, on faisait la course, on tombait, on se relevait, on repartait. Enfin, c'était un coup de cœur, c'est ça.
Ok, génial. Trop cool. Et du coup, dans ton entourage, tu as eu un soutien, j'ai l'impression, indéfectible de tes parents. Et tes frères sont plus âgés que toi, les deux?
Non, j'ai un jeune frère et un plus grand frère.
Okay.
Mais oui, enfin, famille m'a toujours soutenu.
Et toujours soutenu dans cette discipline et le fait d'aller plus loin. À quel moment tu t'es dit j'ai vraiment envie d'aller plus loin?
Ben en fait, comme je le dis souvent, moi je regardais les Jeux Olympiques quand j'étais plus jeune à la télé. Je trouvais ça vraiment cool, mais je me suis jamais dit c'est mon objectif, c'est mon rêve d'aller aux Jeux. Franchement, mon seul objectif, c'était d'attendre le goûter et d'aller m'amuser avec mes copains, copines. Enfin, c'était juste ça, m'amuser. Et puis, ça s'est fait petit à petit. Je veux dire, quand j'étais plus jeune sur la glace, j'avais pas du tout un bon niveau. J'étais même mauvaise. Puis les compétitions, elles se faisaient un peu dans les quatre coins de la France, puisqu'il n'y a pas beaucoup de clubs en France. Et donc, comme on le disait, mes parents ont toujours été... là pour nous, puisque c'est eux qui nous emmenaient aussi sur les compétitions. Ils étaient souvent bénévoles, donc ils faisaient des longs trajets pour pouvoir nous emmener sur les différentes compètes. Et après, au fur et à mesure, on a fait des compètes à l'international, surtout en Europe. Là, pareil, on n'avait pas un très très bon niveau, mais on s'amusait, c'était le plus important. Puis ensuite, par contre, quand il y a eu les sélections donc, pour rentrer dans le Pôle France de Font-Romeu et qu'on a été toutes les deux prises, on s'est dit, ben, là, on va changer radicalement de vie. Et puis... on va vraiment commencer à s'entraîner. Et donc, c'est à partir du moment où j'étais à Font-Romeu que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire.
Ok. Et c'est marrant parce que tu dis on a changé radicalement de vie, mais qu'est-ce que tu entends par radical? est-ce que c'est au niveau de la nutrition? Est-ce que c'est au niveau des sorties? Est-ce que c'est au niveau de... Genre, je sais même pas si tu en fais ta profession et si tu bosses actuellement. Comment ça se passe aussi de ce côté-là?
Ben, en fait, quand je dis radical, c'est juste que déjà avec ma sœur, on n'avait jamais quitté notre famille. Donc on est parti à 1000 km de notre famille pour rester à l'internat à l'année. Et là, c'était un sport-études où les cours étaient vraiment aménagés pour qu'on puisse s'entraîner deux fois par jour. Donc on arrivait à gérer donc, les cours. Moi, j'ai fait tout mon lycée ici, à Font-Romeu. Donc je gérais entre les cours et le sport. Et on s'entraînait beaucoup plus que deux à trois fois par semaine. C'était des entraînements complets, que ce soit au niveau de la muscu, des sorties vélo, que ce soit sur plusieurs points. Et après, c'était pas vraiment la nutrition. Enfin, tous les points un peu plus, comme la nutrition, la prep mentale, tout ça, c'est venu après. Mais c'était... radical dans le sens où, oui, ça, on est loin de chez nous, on doit s'entraîner vraiment, on a tous nos cours, on n'a pas beaucoup de repères. Donc, c'était ça. Et du coup, pour répondre à l'autre question, non, c'est pas... en fait, je pratique ça à l'année. Je fais du short track à l'année, toute la semaine, tous les jours. Mais je ne suis pas payée pour ce que je fais. Et je fais des études à côté. Je viens d'obtenir ma licence STAPS. Enfin, c'est un peu un cliché, mais pas du tout, parce que je suis sportive et que j'ai fait STAPS, mais pas du tout, en fait. Contrairement à mon rêve de gamine sportive de haut niveau qui rêverait de faire les Jeux, moi, je rêvais de, de faire professeur des écoles. Et donc, du coup, j'ai fait une licence TAPS et là, je viens d'intégrer le master métier, l'enseignement, l'éducation et la formation.
Eh bien, félicitations.
Merci.
C'est génial. Et pour revenir un peu, pour revenir à ton internat avec ta sœur, est-ce que le fait d'avoir quelqu'un que tu connais et qui fait partie de ta famille, ça t'a aussi aidé à franchir le pas et à partir et à te lancer dans cette aventure sportive ?
Je pense, enfin forcément je pense parce que...
Ça t'a jamais, tu t'es jamais dit ok elle est là, du coup ça me rassure.
Si si bien sûr, mais en fait c'est juste que on est sœurs jumelles, donc en fait on a... C'est pas comme si on était juste sœurs ou juste avec mon frère, enfin là on est sœurs jumelles, du coup en fait on s'était jamais séparées, on était... C'est juste deux personnes en une. Enfin, je sais. Enfin, non, une personne en deux. Pardon. Oui, c'est ça. Alors, en fait, tu vois, ça me trouble. Mais c'est juste qu'en fait, on a toujours été toutes les deux. Donc, c'est ça. C'était évident.
Ouais. Ok. C'est marrant ce lien que les jumeaux peuvent avoir quand même. C'est des choses que personne ne peut comprendre, je pense. Ok. Et du coup, là, donc, tu as passé ta licence. Tu es en train de. Ouais. Tu démarres ton master dans. Bah, tu l'as démarré aujourd'hui ou c'était la rentrée pour tout le monde?
C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais après, moi, c'est un peu différent.
Mais tu l'as vraiment démarré aujourd'hui?
Oui et non. En fait, je suis en train de finir des tests de positionnement pour savoir dans quel groupe je vais aller.
D'accord.
C'est juste qu'en fait, je fais mes études à distance.
Ok.
Parce que vu que je m'entraîne donc à Font-Romeu, c'est compliqué d'être en cours, d'être en cours tout simplement. Même si ma fac était située à deux pas de ma maison, ça change rien. C'est juste que c'est trop compliqué de s'entraîner et d'aller en cours. Donc en fait, je suis dans un dispositif à Grenoble, ça s'appelle le dispositif intervalle, qui permet de pas aller en cours de l'année, de faire ses cours à distance et d'être présente en cours à la fin de notre saison. Donc entre mars, fin mars jusqu'à juin, on est en cours.
Ok. Mais du coup, tu rencontres...
C'est un peu particulier, ouais.
Du coup, tu rencontres pas grand monde. Enfin, les personnes fait... avec qui tu passes des études et tout, tu les rencontres jamais.
Mais en fait, l'année dernière, pour te dire, j'étais toute seule en cours. J'étais toute seule avec mes profs. Souvent, j'étais souvent toute seule. Et... c'était des cours particuliers. J'ai rattrapé donc pendant 1 à 2 mois toute seule avec les profs. Des fois, on était 2, mais franchement, c'était très rare.
Ok. Et les profs, ils se déplacent genre pour une personne?
Bah, en fait, c'est la fin de leur année scolaire aussi pour eux, donc ils sont toujours présents. Ils finissent du coup de faire passer les partiels, tout ça. Et donc, ils m'avaient en plus.
Ok. Ouais, c'est nice. Et t'as une gestion du coup de ton temps qui est... que tu réalises par toi-même, c'est-à-dire tu prends des cours à distance parce que je suppose que de cette manière tu peux faire du sport quand tu veux et aussi travailler par exemple le soir quand tu rentres chez toi, quoi. Alors que les cours ne permettent
exactement.
Pas si tu fais du présentiel.
Ouais, c'est ça, exactement. Et des fois on peut avoir accès, on a accès à des visios, mais ça change rien parce que ça tombe souvent pendant nos heures d'entraînement.
Et au niveau de ton entraînement, du coup, c'est tout ce que tu le planifies toute seule. Comment est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu t'entraînes avec un groupe? Est-ce que tu t'entraînes seul? Il y a un coach, je suppose, qui te suit et qui te donne des plannings d'entraînement?
En fait, moi, je gère absolument rien de la planification. Je fais partie de l'équipe de France. Donc, je m'entraîne à l'année avec l'équipe de France, vu que je suis membre. Et on a deux coachs. On a un coach Thibaut, Méline. Et on a une nouvelle coach qui vient d'arriver depuis le mois de juillet, une Québécoise, qui s'appelle Annie Sarah. Ouais. Donc, c'est eux qui gèrent toute la préparation.
Et eux, quand tu dis qu'ils gèrent la préparation, c'est ils gèrent aussi bien tes horaires de travail que tes exercices?
Ah oui, en fait, c'est eux qui font toute la planification. Donc, par exemple, pour te donner un ordre d'idée... On se lève, on a entraînement de 8h à midi à peu près, pas que sur la glace. Puis ensuite, on y retourne ça dépend, 14h30, 15h jusqu'à 18h30.
D'accord, et pas que sur la glace non plus.
Non, pas que sur la glace
non plus.
Exactement, mais généralement, on s'entraîne 2 fois par jour sur la glace.
Ok, et c'est des entraînements de combien de temps?
En fait, on a une activation d'à peu près 1 heure où c'est... ben, l'échauffement, ben, on prend pas en... enfin, dans ce temps-là, on ne prend pas en considération le temps de gérer notre matériel, parce que c'est, ça aussi, c'est nous aussi qui le faisons, par contre, ce n'est pas les coachs. Donc on a une heure d'activation, ça va être des exercices spécifiques, mais hors glace, l'échauffement, tout ça. Ensuite, on a à peu près une heure et demie à deux heures sur la glace. Et ensuite, ça dépend, ben, soit de l'aérobie, donc des sorties vélo, soit de la muscu. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent se compléter, et la même chose l'après-midi.
D'accord. Et au niveau où tu dis, tu parlais de ton matériel, c'est une question qui est peut-être idiote, mais je me dis, les coureurs, par exemple, je prends l'exemple du Tour de France qui se tourne aujourd'hui, là, c'est pas eux qui gèrent leur matériel, ils demandent, comme les skieurs qui demandent de faire farter leur ski, et puis qui ont des personnes qui le font pour eux. Toi, c'est toi qui t'occupes de tes patins et d'avoir des patins, je sais pas, est-ce qu'il faut qu'ils soient aiguisés, par exemple ?
Ouais, c'est ça. En fait, donc quand
c'est
je
toi
dis
qui aiguises tes patins ?
Ouais, okay. Exactement. Après, je m'en occupe, mais je m'occupe pas de tout. Il y a des patineurs qui s'occupent de leurs patins de A à Z. Moi, c'est pas le cas. Par exemple, dans l'équipe, on est pratiquement tous à faire gérer nos patins pour ce qui est du cintrage et de la courbe, parce qu'en fait on a des réglages précis sur nos lames, vraiment très précis, et c'est vraiment en fonction de chaque individualité. Donc ça, on voit avec les coachs ce qu'on veut ressentir et ce dont on a besoin, et ça c'est eux qui le font, donc avec une machine à courbe et du cintrage sur la lame pour vraiment permettre de pouvoir tourner comme on veut, ou juste qu'il y ait plus de résistance. Ça a l'air compliqué aussi à comprendre, et j'explique pas très
carrément.
Bien parce que c'est vraiment
c'est
très
non, c'est je pas t'explique pas très bien, non pas du tout,
mais si c'est vraiment difficile, je trouve, à expliquer, parce que faut le ressentir, c'est compliqué. Donc on a des réglages précis pour
on
résumer,
on se mettra au patin et on dira ce qu'on en a pour
ça. Exactement. Et par contre, oui, on affûte tous nos patins dès le plus jeune âge. En fait, à 9 ans, j'affûtais déjà mes patins.
Ok, c'est trop drôle.
Et donc, on a des pierres diamants et un affûteur, on pose nos lames dessus et on les affûte.
Ok, c'est intéressant. Et du coup, on a parlé un peu de d'entraînement physique, mais maintenant, j'aimerais bien qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle un peu de préparation mentale. Toi, du coup, tu m'as dit, parce qu'il fallait qu'on... Enfin, on aurait dû faire l'interview hier, mais du coup, tu as une préparatrice mentale, ce que j'ai appris.
Exactement.
Parce qu'elle m'a
piqué
mon créneau.
C'était pour la bonne cause.
Oui, évidemment. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es avec cette préparatrice mentale ?
Ça fait maintenant 3 ans. Avant, en fait, on était avec un prep mental pour le groupe, pour l'équipe de France en général. Et on ne faisait pas de séances individuelles, mais juste des séances en groupe. Et ça ne me correspondait pas du tout. J'accrochais pas, ça n'allait pas. Et en fait, après les Jeux de 2018, je suis rentrée dans une période assez compliquée pendant 2 ans. Et c'est là où j'ai donc fait le choix de me diriger vers cette prep mentale, Christelle, qui est donc située à Font-Romeu, parce qu'elle fait aussi psychologue. Et donc, dans un premier temps, je suis allée la voir pour un suivi psy. Et ça m'a fait énormément de bien. J'ai commencé à sortir la tête de l'eau. Et du coup, on a couplé au fur et à mesure avec de la prep mentale, et pour ensuite faire que de la préparation mentale. Donc, ça fait maintenant 3 ans que je suis avec Christelle.
Et si c'est pas trop indiscret, au niveau du fait d'avoir la tête sous l'eau, c'était pour des raisons sportives ? Est-ce que c'était
oui,
après
ouais,
les JO ?
C'était pour des... Exactement, c'était pour des raisons sportives. En fait, j'ai eu un problème avec mon ancien entraîneur qui fait que c'était un peu compliqué avec lui. Je suis rentrée dans une période donc vraiment difficile, et je suis rentrée dans une dépression pendant 1 an et demi, 2 ans. Et la seule alternative que je voyais à ça, c'était d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui puisse m'aider. Et donc j'ai trouvé vraiment la bonne personne avec Christelle, parce que c'est ça, elle me comprenait, et puis pour revenir sur mon coach, il me parlait plus depuis 2 ans, et du coup c'est le fait de pouvoir parler à quelqu'un d'autre, ça faisait du bien aussi.
Mais il ne parlait plus depuis 2 ans parce que il parlait plus à personne, ou...
Non, non, bah, enfin, en fait, j'étais la seule dans le groupe.
C'est une manière bizarre d'entraîner quelqu'un, non?
Ouais, exactement, bah, c'est un peu ça. Et puis, j'étais la seule dans le groupe à qui il ne parlait plus et j'ai jamais su pourquoi. Donc ça, c'était vraiment frustrant pour moi. Et ouais, et du coup, voilà.
Ok, et t'as essayé de t'expliquer avec lui?
Oui, oui, bien sûr, plus d'une fois, mais c'est... ça a causé plus de mal que de bien, donc voilà. Okay.
Et c'est toujours ton entraîneur actuel?
Non, non, pas... Non, non.
Autrement, t'en parlerais pas comme ça.
Non, bien sûr, non, ça serait un peu compliqué. D'ailleurs, ouais, je pense que c'est une des premières fois où j'en parle.
Ok, bah, je suis ravi de l'entendre. Une exclusivité sur l'épreuve, c'est génial. Et aujourd'hui, du coup, t'as un nouvel entraîneur?
Exactement, oui. Du coup, j'ai deux nouveaux entraîneurs, ouais.
Ok. Et pour revenir, en fait, sur l'ancien entraîneur, c'est lui qui t'a accompagné, du coup, aux Jeux Olympiques.
Exactement, ouais.
Avant les JO, tout se passait bien.
Très, très bien. Ça se passait super bien. On s'entendait vraiment très, très bien. Les Jeux, c'était une expérience incroyable avec toute l'équipe. C'était super. J'en garde vraiment un très bon souvenir. Il y a eu juste cette période inexplicable qui fait que ça a été compliqué, mais pour tout le reste, c'était top.
Ok. Et donc aujourd'hui, tu fais de la préparation mentale. En quoi ça consiste exactement et comment est-ce que ça t'aide au quotidien? Ce que j'appelle le quotidien, c'est aussi bien dans ton sport, mais je pense que la préparation mentale aide aussi beaucoup dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est ton cas aussi?
Ouais, exactement. Ouais, ouais, bien sûr, exactement. Bah, ça m'a changé la vie. Vraiment. Je pense que tous les sportifs et sportifs de haut niveau devraient être suivis. Moi, je regrette de ne pas avoir été suivie avant, en fait. Je me dis que c'est beaucoup de temps de perdu, beaucoup d'outils de perdu aussi, parce que Christelle, elle me donne beaucoup d'outils qui fait que moi, que je peux m'en sortir si elle n'est pas avec moi. Parce que c'est vraiment un choix personnel, donc elle n'est pas dédiée à l'équipe de France et elle ne nous suit pas sur les compétitions. Mais il faut savoir qu'elle est quand même super disponible. Donc, si j'ai besoin d'elle, par exemple, je suis partie aux États-Unis faire un stage pendant un mois et demi. Et même en étant aux États-Unis, elle arrivait à prendre des créneaux. Et donc, même avec le décalage horaire, elle arrivait à prendre le temps de pouvoir m'entendre et me voir via Skype et compagnie. Donc, c'était cool.
Ok. Et est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que tu as ressenti qui a beaucoup changé par rapport à avant, en compétition, par exemple, et aujourd'hui, tes compétitions que tu as faites depuis quelques années, depuis que tu es suivi par la préparation mentale? Est-ce qu'il y a quelques années, quand tu n'étais pas suivi, tu n'arrivais pas à te concentrer, ou alors il y avait plein d'idées qui te passaient par la tête et tu n'arrivais pas à te focaliser sur ta course? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qui a changé? Et est-ce que concrètement, tu peux un peu nous dire ce que ça t'apporte dans tes compètes?
Bah, c'est un peu tout ça, ouais, exactement. J'avais un manque de concentration, j'avais un manque de confiance en moi énorme. J'avais aussi vraiment beaucoup de stress à l'approche des compétitions. 1000 questions à la minute, c'était insupportable. Et du coup, Christelle m'a amené plusieurs outils. Pour que justement j'apprenne à prendre sur moi à l'approche d'une compétition, que je sache pourquoi j'y vais, donc de mettre vraiment au clair mes objectifs, de savoir donc ouais vraiment pourquoi j'y vais, qu'est-ce que je veux faire, la manière dans laquelle je vais l'aborder cette compétition. C'est énormément de questions qu'il faut prendre le temps de répondre, parce que au final on sait pas toujours pourquoi on le fait, pour qui on le fait, et ouais, c'est ça, donc c'est tout ça, et ça m'aide, d'autant plus que, donc comme je disais, elle m'a donné beaucoup d'outils, qui fait que j'arrive à m'enfermer un peu dans une bulle. J'ai aussi des mouvements que je peux, ou une petite routine, ou des mouvements que je peux faire avant de monter sur la glace, par exemple, et ça me permet vraiment de me focaliser sur ce que je dois faire, et d'avoir une concentration optimale avant de débuter.
Ok, et t'es plus du genre à rester concentré et rester dans ta bulle et pas faire trop de vagues et, je sais pas, genre écouter de la musique avant d'entrer sur la glace, ou t'es plus au contraire, t'as besoin de t'évader, de penser à autre chose et de parler à tout le monde et...
Bah en fait, c'est un peu un mix-match des deux, parce qu'en fait, c'est en travaillant avec elle que j'ai découvert ce qui me convenait le mieux. Et cette année, par exemple, pour te donner une petite anecdote... cette année, on se trouvait donc sur une Coupe du Monde. J'étais plutôt en forme, j'avais fait de belles perfs. La veille, j'étais tombée sur une course et j'étais assez frustrée parce qu'en fait, j'étais en forme. J'avais du coup l'opportunité de passer en finale et donc j'étais tombée. Donc j'étais un peu frustrée, mais le lendemain, j'avais une autre distance. Et j'étais super excitée à l'idée de faire donc cette nouvelle course le lendemain. Et donc j'étais dans le vestiaire, tout se passait bien. Course après course, donc j'arrivais en phase finale. Et donc j'arrive en demi-finale. Et pour la première fois, une des premières fois, je passe presque facilement en finale. Donc là, j'étais au top du top. J'étais vraiment franchement motivée comme jamais. Et donc je me trouvais dans le vestiaire. Il y avait deux membres de l'équipe de France avec moi. Et j'étais la seule à courir encore. Et donc je leur dis, je m'assois, j'étais assez concentrée, je montais sur la glace, je ne sais pas, peut-être 10 minutes plus tard pour ma course, et je leur dis, voyez ce pot là, donc c'était un pot imaginaire hein, bien entendu, je dis vous voyez ce pot là, puis ils m'écoutaient mais plus ou moins, et je leur dis bah, en fait ça s'appelle de la poussière de réussite, si on s'en saupoudre au-dessus de la tête, et ben vous allez voir, hop on fait une médaille, et puis il faut savoir que j'avais jamais fait de médaille en Coupe du Monde. Puis du coup, il rigolait, mais il me disait « Mais arrête tes conneries, tu ou... Ouais, peut-être, mais ils ont l'habitude. Ils disent tout le temps que je suis bizarre, donc... Bref, mais j'étais très sérieuse. J'étais vraiment très, très sérieuse. Je leur dis « Regardez, hop, on en saupoudre ici, on en saupoudre là. Allez, ça, c'est de la poussière de réussite et hop, une médaille. » Bref, il rigolait, mais il me disait « Mais t'es vraiment débile, arrête tes conneries et tout. » Je dis « Allez, ciao, j'ai une médaille à aller récupérer. » Bref, je monte sur la glace. Et je leur fais un petit. Enfin, j'ai un ami très proche dans l'équipe de France qui s'appelle Tristan. Je dis à Tristan, tu vas voir, la poussière de réussite, ça amène vraiment des médailles. Bref, je pars. Donc, je monte sur la glace. Je fais une course. Pas top, franchement, mais pas top. Mais tant bien que mal, j'arrive donc à me concentrer. Mais c'était les éléments extérieurs qui faisaient que la course n'était pas top et aussi les décisions que j'ai prises au moment. Mais bref, j'étais quand même assez lucide. Et au fur et à mesure des tours, je me dis, mais c'est mon moment, Tiff. Enfin, je me dis. T'as mis de la poussière de réussite, tu peux pas ne pas y arriver. Et hop, j'ai fait une médaille. C'était ma première médaille en Coupe du Monde. Et je me dis, mais c'est pas possible. Du coup, je me suis mise à hurler, j'étais folle de joie. Et je sors de la glace et la première chose que je leur ai dit, c'est « Mais je vous l'avais dit, ce pot de poussière de réussite, c'est une tuerie. » Je dis, je pourrais vous en prêter, mais faut vraiment être en forme et puis il faut croire en soi parce que sinon, ça fonctionne pas. Enfin, voilà.
C'était ça. Est-ce que ça, c'est un truc que t'as mis en place avec ta préparatrice mentale? Ou c'est quelque chose qui est venu de toi et tu t'es dit, bon, bah, je vais faire marrer tout le monde.
En fait, c'était pas mon objectif. Je croyais vraiment en ce que je disais. Et avec ma prep mentale, elle me dit souvent, ben, amuse-toi et puis tu verras. Enfin, c'est beaucoup de trucs comme ça qui font aussi que faut pas oublier que le sport, c'est un jeu. Je veux dire, c'est vraiment un jeu. Mon copain Thibaut Fauconnet dit tout le temps, il faut être comme quand on était petit dans la cour de récréation. Faire la course pour faire la course et s'amuser. Donc en fait, je trouve que ça, c'est bien. Et je me le répète souvent, ils ont tous raison, le sport, c'est un jeu. Et donc moi, je croyais vraiment en ce que je disais. Je me suis dit, bon ben, voilà, c'est ça. Et on s'est rendu compte après que c'était plein de petits trucs comme ça, parce que j'ai pas que ça comme anecdote, j'en ai plein d'autres, qui fait que je peux réussir en faisant ça. Après, il faut que je me sente bien dans ma tête et dans mes jambes pour pouvoir faire ça aussi, parce que si on n'est pas au top donc physiquement et mentalement, je pense qu'on n'a pas vraiment envie de faire ça,
de se dépasser quoi. Ouais, j'imagine. Ouais, carrément, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, il y a des moments où c'était un peu plus compliqué et pour des raisons externes, complètement extérieures au sport, je suppose que c'était déjà arrivé un peu comme tout le monde, je pense. Et est-ce qu'il y a des façons dont tu arrives à surmonter ces moments?
Je pense que c'est un peu comme ce que je disais à l'instant. J'essaye de relativiser. Je mets un peu tout de côté. Je me dis chaque chose en son temps. On vit dans le moment présent et puis on verra tout ce qu'on peut du moins gérer après. J'ai eu, par exemple, mes parents, quand quelque chose ne va pas, par exemple, dans ma famille et que je suis à l'autre bout du monde, à la veille d'une Coupe du Monde, ils vont m'envoyer un message pour me dire que ça ne va pas et que quelque chose est arrivé, par exemple. Ça peut paraître assez fou, mais moi, c'est pas que ça me fait rien, mais je préfère savoir que de ne pas savoir au final. Et du coup, j'ai toujours été habituée à fonctionner comme ça, et eux aussi ont été habitués à fonctionner comme ça avec moi. Donc, ils se disent peut-être que j'ai les épaules pour encaisser et que j'arrive peut-être à faire la part des choses. Après, je dis ça, mais ça n'a jamais été une très, très mauvaise nouvelle non plus. Donc, tout est relatif. Je ne sais pas si ça se passerait comme ça dans un cas plus grave.
Ouais, carrément. Non, mais après, je trouve que aussi les personnes qui arrivent à relativiser, qui arrivent à relativiser et aussi se dire, bon, bah, cette course aussi, je la fais pour... parce que, je sais pas, j'ai envie de me dépasser pour la situation que je suis en train de vivre, et je pense qu'il y a qui rentre en compte. Chaque personne est différente, je pense, et je suis déjà tombé sur des sportifs, tu vois, que j'ai interviewés, et eux, ils savaient rien au bout de, c'est avant genre 10 jours ou un truc comme ça, quoi. Le temps de faire leur compète, et que, bah, après, ils soient débarrassés du truc, et se dire, bon, bah, voilà, maintenant, on va te dire, voilà ce qui s'est passé, quoi. Et ce que je trouve un peu, genre, moi, je pourrais pas. Genre, j'ai trop besoin d'être informé, tu vois, de ce qui se passe dans la famille, quoi. C'est sûr. C'est obligé, quoi.
Ouais, ça dépend de chacun, ouais.
Et le sport là, que tu pratiques en ce moment, par rapport, du coup, t'en fais depuis très longtemps. À quel moment tu t'es dit, je vais pouvoir atteindre les Jeux Olympiques, je vais pouvoir faire des Coupes du Monde, je vais pouvoir faire des choses comme ça? Je crois que des Coupes du Monde et des compétitions internationales, tu me disais que t'en faisais déjà très jeune.
Moi, j'en faisais très jeune, mais j'avais pas un bon niveau, et c'était juste en Europe. Donc, en fait, c'est accessible un peu à tous. En fait, j'ai commencé à croire ou à espérer d'aller aux Jeux Olympiques, je pense, à mon entrée à Font-Romeu. Parce qu'en fait, dès la première année, j'ai fait mes premiers mondes juniors. J'étais pas top non plus, mais au fur et à mesure... peut-être l'année suivante, j'ai fait mes premières Coupes du Monde. Et après, j'ai fait les sélections pour les Jeux Olympiques pour Sochi, donc, en 2013-2014. J'ai pas réussi. mais je sais que... Enfin, c'est aussi à ce moment-là que je me suis dit que c'était pas loin. Et donc, au fur et à mesure des Coupes du Monde, des compètes, je savais que mon niveau ne cessait de progresser. Et après, c'est devenu, du coup, mon ultime objectif.
Ouais, j'imagine. Et Sochi, il y a eu une grosse déception?
Pas du tout, non. Non, non, il nous avait envoyé... Non, mais autant être honnête.
Inattendu, quoi. Non, je m'en tape.
Non, mais en fait, je savais très bien que si je m'étais sélectionnée, j'y serais allée pour faire dernière. Enfin, j'étais très jeune encore. Ouais, non, mais... faut bien un dernier. Non, mais c'était... J'étais très jeune, et puis... c'était plutôt une expérience de tenter les sélections olympiques, parce que ça, nous, en fait, les sélections olympiques, elles se déroulent pendant les Coupes du Monde, et ça n'a rien à voir avec des Coupes du Monde ordinaires. Donc c'était vraiment une très bonne expérience. En tout cas, c'était une expérience enrichissante pour les Jeux de Pyeongchang.
Ok. Ouais, non, mais j'imagine que ça doit être bien cool. Et dès que tu as commencé à faire des compétitions et aller toujours plus haut et essayer d'être toujours... d'atteindre des objectifs toujours plus hauts, est-ce que t'as ressenti le fait que tu faisais des sacrifices dans ta vie tous les jours ou pas?
Pareil, je vais dire quelque chose que j'ai l'habitude de dire. Je dis jamais que je fais des sacrifices, mais plutôt des choix. Parce que si j'en suis là, c'est juste parce que j'ai fait les choix de devenir ce que je suis aujourd'hui, et c'est pas des sacrifices. Après, bien entendu, à proprement parler, oui, il y a des sacrifices qui sont faits, mais si c'était à refaire, je pense que je referais tout pareil.
Ouais. Okay. Pour toi, tu préfères voir ça comme des choix que des sacrifices, parce qu'au moins, genre,
exactement.
Tu te dis, quand tu fais des choix, tu peux pas t'en vouloir, alors quand tu fais des sacrifices, c'est un peu compliqué.
Bien sûr, exactement. J'ai pas envie d'avoir de regrets. Je pars du principe que faut être heureux, et puis faut essayer de faire les bons choix, donc c'est tout.
Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Et qu'est-ce qui te drive aujourd'hui? C'est quoi tes objectifs et tes projets? Et est-ce que c'est le fait d'aller à Pékin en 2022?
Ou t'es
à fond là-dessus?
Exactement. Donc mon principal objectif, c'est de décrocher une médaille au prochain jeu,
à Pékin, c'est simple. En 2022. Il faut juste mettre de la poudre de réussite.
Exactement, mais tu sais, ça se trouve pas partout, la poudre de réussite, et il faut savoir que j'en ai un tout petit pot, donc il va falloir que je la conserve pendant un moment. Et ouais, donc c'est ça mon principal objectif. Après, mes objectifs sportifs à court et moyen terme, c'est donc d'obtenir des médailles en Coupe du Monde, sur les championnats d'Europe et sur les championnats du monde, que ce soit en indive comme en relais. Après, j'ai d'autres projets aussi, mais à côté du sport, qui prennent moins de place en tout cas.
D'accord.
Parce que j'y consacre moins de temps forcément.
Et c'est quoi ces projets ?
Déjà, j'aimerais passer donc le concours de professeur des écoles. J'aimerais aussi faire une formation de prof de yoga. Enfin, j'ai pas mal de trucs sur ma petite liste, donc j'attends de voir après les Jeux de Pékin.
Ok. Du coup, là, tu te mets à fond dans les Jeux de Pékin jusqu'en 2022. Ouais.
Exactement.
Et après, tu veux arrêter ?
Non, je pense pas, mais ça fait longtemps que je patine. Et comme je disais hier à une amie, c'est vraiment difficile d'être sportif de haut niveau. Les gens ont tendance à voir que le bon côté des choses. Souvent, quand je dis que je fais du patinage de vitesse et que je fais partie de l'équipe de France, que j'ai fait les Jeux Olympiques, on me dit « Waouh, mais ta vie est géniale, c'est incroyable !» Ouais, voilà, c'est ça. Sauf qu'en fait, on ne voit pas en fait, tout ce qui se cache derrière. Donc, ce n'est pas les sacrifices, mais tout ce qui engendre un peu tout ça. Je veux dire, par exemple, les blessures, les heures passées sur la glace. Par exemple, je ne sais pas, tu te donnes tellement à l'entraînement que tu pousses ton organisme tellement, tellement loin que ça te fait vomir. Enfin, je veux dire, c'est plein de trucs comme ça qui fait que... Enfin, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur et j'ai besoin de faire une petite pause après les Jeux de Pékin.
Okay.
Mais ça ne veut pas dire que j'arrêterai.
Ok. Et tu peux partir en vacances et tout ou pas? Ou t'as des entraînements genre vraiment continus?
Là, par exemple, l'été, nous, c'est notre gros bloc d'entraînement parce qu'on se construit donc pour tout l'hiver. Mais on est sur des blocs d'à peu près 3-4 semaines. Ouais, c'est ça. 3-4 semaines et une semaine de vacances. 3-4 semaines, une semaine de vacances. Et ça, 3-4 fois. Et après, on a une coupure à la fin de la saison, donc, comme je te disais tout à l'heure, pour les cours. Donc en fin mars jusqu'à mai, généralement.
Et ce rythme-là, ça t'a pas... Tu t'es déjà posé la question à un moment, après une blessure ou après une défaite ou même une victoire, ou par rapport à tes cours, ton entraînement, ton train de vie et tout. Est-ce que tu t'es déjà dit que tu voulais arrêter à un moment ou pas?
En fait, je me suis jamais dit que je voulais arrêter. Moi, ça m'a toujours passionné et animé. Enfin, j'adore le sport, mais j'adore le short track, vraiment. Je suis passionnée de short track. J'adore ça. Et puis, franchement, j'adore m'entraîner. J'aime quand c'est dur, quand c'est vraiment difficile. Enfin, c'est un peu bizarre, mais... c'est ça. Puis j'aime la compète, je suis déterminée au possible. Donc je me suis jamais dit que je voulais arrêter. Après, souvent, j'ai déjà eu des petits coups de mou. Je me suis jamais blessée, mais moi j'ai déjà eu des petits coups de mou. Par exemple, quand une amie vient d'être maman, quand des amis viennent d'être parents et qu'on peut pas être là, ou quand quelqu'un fête son anniversaire et que ça nous tient à cœur d'y aller, mais on peut pas parce qu'on est trop loin. C'est plein de trucs comme ça, c'est des moments de vie qu'on loupe, qui sont difficiles à encaisser. Et malgré ça, je me suis jamais dit que je voulais arrêter.
Ouais, ok. Et pour revenir sur les Jeux Olympiques, assez rapidement, ça fait quoi? Ça fait quoi d'être au JO?
C'est une expérience complètement folle. Moi, je suis partie avec... on était 4 patineurs français. Véronique Pierron, Sébastien Lepape, Thibaut Fauconnet et moi. Donc les 3 autres avaient déjà fait les Jeux Olympiques plusieurs fois. Et moi, c'était mes premiers. Et donc, en fait, avant de partir, il m'avait dit à peu près comment ça allait se dérouler. Il m'avait un peu expliqué l'organisation, enfin tout ça. Et ça me faisait rêver. Franchement, ça me faisait rêver. J'avais trop hâte d'y être. Et en fait, une fois sur place... Mais ça n'avait rien à voir. C'était encore plus fou que ce que j'imaginais. Enfin, c'était dingue, mais c'était genre vraiment dingue. Surtout qu'en plus, il faut savoir que le short track, c'est le sport national en Corée du Sud. Donc, il faut imaginer un peu que les places pour aller voir le short track étaient vendues des mois et des mois à l'avance. Donc, la patinoire était pleine. Enfin, je ne sais pas comment dire.
Mais j'imagine que c'est un événement comme ça.
Non, jamais. Enfin, on a d'autres compétitions comme celle-là, par exemple, les championnats du monde qui avaient eu lieu à Rotterdam, aux Pays-Bas, parce que pareil, c'est un sport tellement connu là-bas qu'ils font vraiment le show et c'est vraiment une ambiance folle, mais les Jeux Olympiques, c'était au-dessus de tout. Enfin, ouais, c'était incroyable. Et puis, il faut savoir que ma famille, qui m'a toujours soutenue, ils ont fait le déplacement. Donc, ils n'avaient jamais voyagé aussi loin et ils sont venus en Corée du Sud pour me voir. Donc, mes parents, ma sœur, ouais, c'était... Franchement, c'était fou. C'était dingue.
Ok. Et t'as réussi à t'en remettre ?
Ouais. Après, j'ai pris du recul depuis et je me dis que c'était vraiment dingue. Et mais je me dis qu'en étant médaillée, c'est encore... Enfin, je veux dire, c'est multiplié par l'infini, je pense. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas... Enfin, ouais, c'est le summum, donc...
Tu penses qu'en arrivant à Pékin en 2022, t'auras... En ayant déjà cette expérience, est-ce que ça va te permettre de te concentrer sur, genre, pleinement sur ton sport aussi? Ou alors c'était déjà le cas à Pyeongchang et t'étais vraiment concentré à fond? Ou alors t'étais un peu impressionné par tout ce qui se passait autour?
Non, en fait, j'étais impressionné par tout ce qui se passait, mais j'étais concentré. Donc, une fois sur la glace, ça se passait bien. Après, je pense que je croyais pas assez en moi. J'étais... C'est les mêmes patineuses. Enfin, je veux dire, je me battais contre les mêmes filles que je me bats toute l'année. Donc, en fait, je me bats avec elles toute l'année, donc je vais me battre avec elles aux Jeux Olympiques. Donc, je suis pas prise de court quand je les vois. C'est juste que... Je sais pas, c'était... Ouais, c'est ça. C'était peut-être un manque de confiance en moi. Puis, j'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Donc, maintenant aussi, ça m'a fait grandir, humainement comme sportivement. Mais ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui va m'apporter pour mes prochains Jeux.
Et la transition est assez bonne parce que je voulais aussi qu'on parle un peu de la médiatisation de ton sport et je voulais te poser la question un peu de savoir comment tu vivais parce que je pense que c'est un peu compliqué aussi pour une discipline comme la vôtre, le short track qui est très peu médiatisé en France et la première médiatisation c'est les Jeux Olympiques du coup.
Ouais, exactement.
Toi, est-ce que tu es à la recherche de sponsors par exemple? Quotidiennement, est-ce que tu es à la recherche de sponsors et comment est-ce que ça se passe de ce côté-là au niveau de la médiatisation, des financements, je pense, pour tes projets, parce que tu as des déplacements aussi. Comment est-ce que tu gères tout ça?
En fait, c'est très très compliqué. Il faut savoir que je suis aidée par la ville de Belfort et heureusement parce que si j'étais pas aidée par la ville de Belfort, donc je serais pas là. En fait, j'aurais arrêté parce que j'ai pas du tout de revenus. J'ai pas vraiment de sponsor non plus. En tout cas, j'en ai très peu, mais ils m'aident pas financièrement. Mais c'est déjà très bien ce qu'ils font pour moi. Je les remercie. C'est juste que oui, vu que c'est pas du tout médiatisé en France, c'est très très compliqué. C'est un sport méconnu. C'est vraiment difficile que ce soit pour chaque athlète, donc en individualité comme pour le groupe au final, parce que comme tu disais, on passe à la télé tous les 4 ans. Je veux dire, on nous a déjà vu peut-être pour les championnats d'Europe ou pour les championnats du monde sur peut-être l'équipe ou des chaînes comme ça, mais franchement, c'est très très rare. Et même quand on fait des médailles, c'est pas médiatisé. Donc ça, c'est vraiment dur. Ça, c'est vraiment dur à encaisser. Par exemple, j'ai un exemple. Moi, j'ai décroché ma première médaille individuelle en devenant vice-championne d'Europe en 2019. Et il n'y a rien eu, quoi. Enfin, donc c'était compliqué parce qu'on se dit c'est peut-être notre chance de pouvoir mettre en avant notre sport et puis de se mettre aussi un peu en avant parce qu'on n'est jamais sur les devants de la scène et au final même en faisant des médailles ça marche pas quoi. Donc faut continuer d'en faire et puis justement essayer de faire quelque chose via les réseaux et puis de parler de notre sport un peu partout où on va.
T'es assez présente sur les réseaux sociaux, c'est un peu pour cette raison aussi. Montrer ce que tu fais, montrer ton sport et mettre en avant un peu tout ça.
Ouais, exactement. C'est seulement pour cette raison. Je sais même pas si ça me plairait d'avoir, en tout cas d'être autant active sur les réseaux si j'étais pas sportive. Mais en tout cas, j'essaye vraiment d'être très très présente sur les réseaux. Je sais pas si ça se voit. En fait, je suis aidée via un collectif, via une association, le collectif des sportives, par une community manager justement qui m'aide à me vendre et à poster régulièrement pour pouvoir, me mettre en avant et mettre en avant aussi mon sport.
Et il y a une bonne évolution, tu trouves, ça a apporté beaucoup.
Ça commence à fonctionner un petit peu, mais je pense qu'il faudrait bien plus parce que ça reste du short track.
Ouais, justement. Okay. Non, mais c'est vrai que je vois, bah, comme je te suis depuis quelques temps, je vois que ouais, tout ce que tu postes, c'est des choses sportives et ça reste purement, j'ai l'impression, pour le sport et tout ça, quoi. Je suis pas un grand passionné de réseaux sociaux non plus, mais au final, genre, pour faire marcher les choses, bah, il faut ouais. donner de soi, quoi. Genre, c'est idiot, mais.
Exactement.
Genre, et surtout quand c'est des sports individuels comme ça, tu peux pas te cacher derrière des patrons, quoi. Enfin,
ouais, c'est ça, exactement.
Donc bon. Ok. Et ben, écoute, j'avais quelques dernières questions pour toi, Tiffany. Les dernières questions de l'épreuve. Okay.
Ok.
C'est des questions assez courtes. Et après, comme ça, je pourrais te libérer et tu pourras aller à ta réunion.
Ok.
Du coup, la première question, c'était quelle est la valeur la plus importante à tes yeux?
Je dirais la détermination.
Est-ce que tu penses avoir de la chance?
De la chance. J'ai de la chance uniquement quand je mets de la poussière de réussite au-dessus de ma tête, ouais.
Ok, ça marche. Est-ce que tu lis? Et est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller?
Je réfléchis. Mais en fait, j'ai pas spécialement de livre à conseiller. Je lis énormément. Je lis beaucoup de bouquins sur les sportifs en général. Donc je pense que...
Sur des autobiographies ou enfin des biographies ou des choses comme ça?
Ouais, exactement.
Ouais, ok.
Je vais réfléchir.
Vas-y. j'avais une autre question. Ah oui, est-ce que tu as une phrase, une espèce de maxime, une phrase de réussite que tu aimes te dire et que tu aimerais partager?
Enfin, ça va paraître cucu, mais je pense qu'il faut juste s'amuser et être heureux.
J'avoue, c'est cucu. Hein.
Si, je suis d'accord aussi, mais c'est ce qu'il y a de plus important.
Je rigole. Hein. Je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'en t'écoutant, et c'est ce que je trouve vraiment ultra cool, je trouve qu'il y a un côté hyper détendu. Et genre, la raison pour laquelle tu fais ça, je pense que c'est uniquement parce que ça fait plaisir et parce que t'es heureuse là-dedans. Et je trouve ça trop cool. Enfin, vraiment, je trouve ça trop bien. Il y a beaucoup de sportifs, je pense, qui surjouent un peu ce qu'ils font pour parfois des raisons qui sont trop financières, je pense. Ouais. Ils vont avoir des qualités et tout. Mais, genre, c'est trop cool de recevoir et de pouvoir interviewer des gens qui sont, genre, pleinement dans l'envie d'être heureux, de faire ça pour le plaisir. Et je sais pas si t'avais vu, mais j'ai interviewé, je sais pas si tu connais Marion Aherty. Qui est championne du monde en freeride de snowboard.
Ouais.
Et c'est la première fois que j'ai été surpris d'une question. J'avais demandé est-ce que t'avais envie d'être championne du monde quand t'as commencé le snowboard? Et elle me disait, genre, non, pas du tout. Genre, moi, je voulais juste faire du snowboard. Et au final, les premiers championnats du monde que j'ai gagnés, j'étais surprise et c'était cool. Mais genre, elle me disait, c'était trop bien. Mais ouais, j'en ai gagné deux après, c'était cool, mais j'aime bien la vie que j'ai, en fait. Elle dit, mon objectif, ouais, c'est d'être championne du monde pour continuer à vivre comme je vis, parce que j'aime comme je vis, tu vois.
Elle a entièrement raison.
Exactement. Ouais. Et au final, est-ce que c'est pas la bonne façon de penser et de se dire que, fais ce que t'as envie de faire dans la vie et ça te réussira, tu vois.
Ouais, moi, je pense aussi. De toute façon, il faut pas s'enfermer dans quelque chose qui nous plaît pas. Faut juste, se poser la question, est-ce que je suis heureuse? Si la réponse est non, et ben, bim bam boum, on fait quelque chose d'autre.
Exactement, je suis d'accord. Bon, j'avais une dernière question et après je te laisse. Je voulais savoir quelle était ta définition de l'épreuve.
Bon, c'est un podcast trop cool qui interview des gens trop cool.
Ok, parfait, ça me va. Eh ben écoute, Tiffany, merci beaucoup d'avoir participé à l'épreuve et puis bon courage pour Pékin 2022. Si j'ai la possibilité de passer dans le coin, je serais très content de te rencontrer en vrai parce que c'est toujours plus sympa.
Avec plaisir.
Et puis on garde contact.
Carrément. Merci beaucoup.
Avec plaisir. À bientôt.
À bientôt.
vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sûrement plu. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça aide énormément l'épreuve et ça le fera découvrir à encore plus de personnes. L'épreuve revient dans 2 semaines avec un nouveau sportif. En attendant, rejoignez-nous sur Insta et sur Facebook. Mettez des commentaires, mettez des likes, envoyez-moi des messages afin de parler de cet épisode ou de ce que vous voulez. Je serai content de vous répondre. À très vite !